littéraire, mais aussi rencontre entre deux écrivains à travers deux récits, certes de facture assez différente, mais qui se réunissent autour de la littérature et du cinéma. L'un raconte une année au cœur d'un rêve, une drôle de vie, comme l'écrit son auteur. L'autre est un drôle de livre qui raconte la vie d'une femme, ou plutôt de plusieurs femmes à travers une seule. Mais dans les deux cas, il s'agit peut-être, que ce soit réel, que ce soit féerique, d'une errance littéraire et cinématographique. Anne Wiazemski et Nathalie Léger sont mes deux invités. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Alors Anne Wiazemski, vous êtes écrivaine, vous êtes comédienne, réalisatrice. Vous avez été mariée à Jean-Luc Godard, qui vous a fait jouer dans son film La Chinoise en 1967. C'est cette histoire que vous racontez aujourd'hui dans Une année studieuse qui paraît chez Gallimard. Et Nathalie Léger, vous êtes directrice adjointe de l'IMEC, l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine. Vous avez été commissaire de plusieurs expositions. On peut citer celle sur Antoine Vitez, elle remonte à 1994, mais aussi celle sur Roland Barthes en 2002, c'était à Paris, également en 2007, Samuel Beckett à qui vous avez consacré un drôle de roman déjà, un drôle d'essai, les vies silencieuses de Samuel Beckett, c'était chez Alia en 2006. Et puis vous avez écrit un deuxième roman qui s'intitulait L'Exposition, c'était chez POL en 2008, sur la comtesse de Castiglione, et vous publiez là Supplément à la vie de Barbara Loden, publié chez POL. Alors je disais, toutes les deux, d'une certaine façon, vous avez en commun la littérature, certes, mais aussi le cinéma, et peut-être même un certain Jean-Luc Godard, puisque Jean-Luc Godard est au cœur de votre livre, Anne Wiazemski, et qu'il est en exergue de votre livre, Nathalie Léger. Et je disais également deux errances, errance littéraire, errance cinématographique. Est-ce que ce sont des termes que vous trouvez justifiés ou à juste titre, disons, Anne Wiazemski?
Je le trouve tout à fait justifié dans le personnage de...
Approprié, voilà le mot que je cherchais. Pardon.
Approprié pour Vanda, pour le personnage du film de Barbara Loden. Et sans doute, grâce à ce livre, pour cette femme merveilleuse qui a été comme une comète.
Qui était Barbara Loden.
Oui, Barbara Loden, bien sûr. Pour moi, non, je ne vois pas. Mais c'est parce que je suis plus obtus sur moi-même que sur les autres. Ça doit être ça.
Nathalie Léger.
Une errance, oui, mais au fond, on pourrait dire, on pourrait reprendre le mot pour chacun de nos destins. Moi, je crois que je pourrais le dire à propos de nombre de livres d'Anne Wiazemski. Dès qu'on est à la recherche de soi-même, il y a quelque chose qui relève de l'errance. Et c'est ce trajet comme ça, un peu, je dirais pas perdu d'avance, mais en tout cas autour de la perte de soi, d'un sentiment, et qui trouve des choses, qui rencontre, c'est le cas dans le film de Vanda, c'est le cas dans la vie de Barbara Loden, Anne Wiazemski est là pour le raconter aussi. Bien sûr qu'il y a des rencontres dans ces errances.
Alors peut-être que vous ne souhaitez pas qu'on dise errance pour ce livre-là, Anne Wiazemski, Une année studieuse, parce que dans le terme d'errance, on peut, et là on pense à Vanda et à ce personnage de Vanda, on peut y voir quelque chose d'assez triste, d'assez oui. Une forme de disparition, de perte, disiez-vous d'ailleurs, Nathalie Léger, alors qu'effectivement, dans Une année studieuse, Anne Wiazemski, on a plutôt des souvenirs extrêmement joyeux. Vous faites quelque chose d'assez féerique à partir de quelque chose que vous avez vécu quand vous aviez 19 ans, un peu comme si c'était, alors là vous allez nous le dire, un peu comme si c'était la vie rêvée, ou la vie d'un film, ou la vie romancée, tiens. Mais un peu peut-être aussi comme vous l'avez vécu quand vous aviez 19 ans.
Oui, quand je me suis décidée, et j'ai beaucoup hésité à raconter cette histoire, il y a eu plein de faux départs, il y avait quelque chose de très volontaire qui était que je ne parlais pas du point de vue d'aujourd'hui, sachant ce que je sais. Et donc, cette année, si je me penche sur ce passé, a été, il y a eu des moments de malheur aussi, mais totalement, presque 80% de bonheur. Et je pense que c'est... je ne fais pas du tout exprès de raconter, d'écrire tel livre à tel moment. Je crois plutôt que c'est... Enfin, c'est très bizarre, comme dirait Patrick Modiano. C'est plutôt le livre qui me choisit. Mais je suis obligée de reconnaître qu'avec Jeune fille, Mon enfant de Berlin et celui-là, ces trois livres qui ont en commun le bonheur. Donc, je suis bien obligée de dire que j'y suis pour quelque chose, mais le choix est inconscient.
Alors, ils ont
je pense que c'est que des années d'errance, j'en ai eu énormément. D'ailleurs, quand j'avais vu à l'époque où c'est sorti Vanda, je m'étais immédiatement identifiée avec cette héroïne. Mais je crois que j'ai aucune envie de me repencher là-dessus, quoi. C'est les années d'errance et de souffrance.
Et vous liez errance à souffrance, c'est ça.
Oui, c'est ça. Oui.
C'est ça.
Parce que mes propres années d'errance, que je n'ai pas envie de raconter, sont des années de souffrance. Nécessaires sûrement, mais...
Alors que là, vous racontez plutôt une aventure. Une aventure qui est effectivement extrêmement joyeuse, avec des scènes extrêmement cocasses. Et c'est peut-être parce que vous avez voulu garder les moments joyeux plutôt que garder les moments mélancoliques ou malheureux qu'il y a eu, puisque la vie est ce qu'elle est, que vous avez effectivement écrit dans ce livre, Anne Jasemski, des scènes extrêmement cocasses. Alors, on peut citer quelques scènes, la rencontre avec Daniel Cohn-Bendit. En plus, vous prenez un malin plaisir à maintenir le suspense dans cette scène-là. Daniel Cohn-Bendit était étudiant à Nanterre, et puis il réclame la solidarité des rouquins. Il se trouve que vous êtes une rouquine, Anne Jasemski. On peut également citer le discours de Jean Villard à Avignon. Il était chargé de présenter La Chinoise, parce qu'il faut dire que La Chinoise, dans lequel vous avez eu un rôle important, Anne Jasemski, était donc le premier film à être projeté dans la cour d'honneur du Palais des Papes. Et effectivement, c'était Jean Villard qui était chargé de le présenter. Il s'est vertué à appeler ce film La Tonkinoise, donc scène extrêmement cocasse. Et puis une dernière, c'est quand vous vous trompez de chambre, vous êtes invité justement dans un hôtel, je crois que c'est au moment d'Avignon, et vous êtes dans un hôtel, vous vous trompez de chambre et vous vous glissez subrepticement dans le lit de Jean-Pierre Cassel, qui est dans la chambre d'à côté. Scène extrêmement
heureuse. Oui, parce que y a certaines choses qui sont complètement reconstituées, voire inventées, parce que tout est vrai et tout est faux dans ce livre, mais il y a certaines choses qui sont comme si c'était hier. Je dois dire, à la fois où je me suis glissée dans le lit que je croyais être de l'homme que je venais d'épouser, c'est-à-dire Jean-Luc Godard, parce que les chambres étaient toutes pareilles. Et que j'ai senti une main se poser sur mon épaule, et cette voix, pour moi, que je connaissais par cœur, comme groupie, me dire « c'est toi Sabine ». C'était comme ça, c'est comme si c'était hier. Et c'est, ce qui était drôle, c'est que lui, Jean-Luc, qui était quand même très jaloux, puis il me voit surgir dans la chambre, nue, parce que je m'étais déshabillée, je m'étais relevée à toute vitesse. Et il a tout de suite cru ce que je racontais, tellement il y avait une logique du film comique.
Et c'est devenu une phrase de référence entre vous, comme
c'est toi,
un certain
Sabine,
nombre
d'autres. D'ailleurs, c'est drôle parce que j'ai des amis maintenant qui m'appellent en m'appelant Sabine. C'est très joli, non?
Alors, vous disiez, Anne Jasemski, tout est vrai et tout est faux dans ce livre, comme dans beaucoup de livres. On a évoqué d'ailleurs la question en première partie de cette émission aujourd'hui, à partir de l'inspiration d'un certain nombre de romans issus de faits divers. Nathalie Léger, c'est précisément l'exergue de Jean-Luc Godard que vous avez choisi dans votre livre, à propos de fiction et réalité, ou bien de vérité et de mensonge, on peut tourner autour des mots. Et ça, c'est trop transparent ou pas assez? C'est un dialogue. Ça dépend si vous voulez montrer la vérité. C'est comment la vérité? C'est entre apparaître et disparaître. Et cet extrait de Détective de Jean-Luc Godard. C'est intéressant quand on lit le livre d'Anne Jasemski sur cette idée de mélanger la fiction et la réalité, d'aller chercher des choses qui sont vraies, qui sont fausses, et la façon dont vous avez travaillé toutes les deux. Puisque Anne Jasemski, vous avez sans doute beaucoup travaillé avec votre journal intime. D'ailleurs, des bribes de ce journal apparaissent dans votre livre de 1966.
Mais j'ai beaucoup inventé aussi.
Et vous avez, donc, vous disiez, beaucoup inventé. Quelle a été votre démarche à vous, Nathalie Léger, pour ce livre ?
Je suis partie d'un film, Vanda, on l'a évoqué, qui est un film culte des années 70, qui est le seul film réalisé par Barbara Loden. Et de ce film, que moi aussi j'ai vu comme Anne Jasemski en m'identifiant. Et je pense que tous les spectateurs, c'est un film qui a laissé une trace, qu'on peut dire indélébile, dans l'esprit de ceux qui l'ont vu. Marguerite Duras voulait le tirer de l'oubli. Un film très important et qui a à chaque fois suscité cet effet d'identification. Et donc je suis partie de ce film pour revenir vers sa réalisatrice, d'autant plus que c'est elle qui interprète Vanda. Donc Barbara Loden, qui est une actrice de ces années 70, c'est une femme de la génération de Marilyn Monroe finalement. Elle a 5 ou 6 ans de moins. Mais elle a un parcours comme celui de Marilyn Monroe, une enfance triste, une enfance difficile. Et puis l'avènement de la jeune femme en pin-up dans les années 50, une fille de calendrier, on va dire. Et puis la carrière de l'actrice, la rencontre avec Kazan, dont elle est la seconde femme. Mais à un moment, tout cela, donc c'est une très très grande actrice. Tout cela sans doute l'insatisfait, puisque ce qu'elle veut écrire, donc elle écrit, elle réalise et elle interprète Vanda. C'est vraiment le film d'une grande mélancolie. Mais à l'intérieur de cette mélancolie, il y a des vérités qui apparaissent et qui disparaissent, puis peut-être qui réapparaissent.
Alors, vous n'avez pas complètement répondu à ma question, Nathalie Léger, sur la façon dont vous vous y êtes pris, puisque vous écrivez qu'au départ, vous ne deviez écrire qu'une notice dans un dictionnaire de cinéma. Et la notice biographique de Barbara Loden s'est transformée en livre, quand même.
Alors, c'est vrai que...
Il y a de l'enquête, il y a de l'autofiction, il y a de la biographie. C'est pour ça que je disais que c'était un drôle de livre.
Il y a une... Il y a une œuvre aimée, un chef-d'œuvre, à vrai dire, Vanda, et à partir du film, il y a une commande très simple, rudimentaire même, écrire une notice, on va dire 1500 signes, sur la vie et l'œuvre de Barbara Loden. Il faut noter d'ailleurs qu'il y a très très peu de choses sur elle. Et là, en tout cas, la narratrice se fait emporter par la commande. La commande est rudimentaire, mais elle va... à la fois tomber dans le film et faire de cette commande, elle va déborder de la commande et ne pas parvenir à faire ce qu'un bon rédacteur de notices doit faire, c'est-à-dire à mettre ses états d'âme de côté. C'est-à-dire que l'identification au film, la figure de Vanda et celle de cette cinéaste dont on connaît si peu de choses, qui était une femme d'une très très grande beauté avec un charme fou et quelque chose d'un peu dans son rapport aux hommes, d'un peu dur, d'un peu fier, d'un peu farouche, et qui néanmoins écrit et interprète Vanda, c'est-à-dire le film d'une femme défaite. Donc toute cette intrigue, cet entrelac intéresse la narratrice et la conduit bien sûr à déborder, à ne pas cesser de déborder la commande initiale.
Le film d'une femme défaite, dites-vous, alors qu'on pourrait presque dire l'inverse pour votre livre et pour votre histoire, qui n'est pas le film d'une histoire défaite, mais bien le film d'une femme qui se construit, qui se fait, puisqu'on peut dire avec ce livre, une année studieuse, Anne Wiazemski, que c'est à la fois un roman d'amour et un roman d'éducation.
Tout à fait.
Parce que Jean-Luc Godard, que vous rencontrez donc quand vous avez 19 ans, vous venez de tourner un film au hasard Balthazar avec Robert Bresson, et vous rencontrez Jean-Luc Godard tout simplement parce que vous lui écrivez une lettre d'amour. C'est le tout début du livre, donc je vais lire cet incipit. Un jour de juin 1966, j'écrivis une courte lettre à Jean-Luc Godard adressée au cahier du cinéma 5 rue Clément Marot, Paris 8e. Je lui disais avoir beaucoup aimé son dernier film, Masculin-Féminin. Je lui disais encore que j'aimais l'homme qui était derrière, que je l'aimais lui. J'avais agi sans réaliser la portée de certains mots après une conversation avec Ghislain Cloquet, rencontré lors du tournage de Au hasard Balthazar de Robert Bresson. Voilà l'ouverture de ce livre. Et donc, c'est un an dans la vie d'une jeune femme qui s'appelle Anne Wiazemski que vous racontez dans ce livre-là.
Oui, parce que, si vous voulez, j'étais à un moment donné de ma vie, c'est-à-dire le tout début, où j'avais une goinfrerie de cinéma, d'apprendre, de connaître, de rencontrer. C'est-à-dire que je crois qu'il est propre à cet âge-là, peut-être moins dans les générations actuelles, mais en tout cas, donc tout me profitait. Et en plus, il se trouve que c'est Jean-Luc Godard, mais c'est aussi Francis Janson, parce que ça commence comme ça.
Francis Janson était votre cours, votre professeur de philosophie.
Oui, que j'aborde en lui disant, je viens d'échouer, j'ai mon bac de rattrapage en philo, est-ce que vous voulez bien m'aider
à remonter la pente.
Et comme tous les gens extrêmement timides qui rasaient les murs, c'est encore valable aujourd'hui, tout d'un coup, ces gens-là, cette race de gens, sont capables de faire des bonds d'un culot, absolument. Donc il y a eu là cette rencontre avec Francis Janson, qui était quelqu'un dont je savais que je parlerais un jour, tellement il a été important pour moi. Mais aussi Michel Cournot, que j'ai absolument adoré. Au passage, François Truffaut. Et puis, en même temps, mes amis. Nathalie et Blandine. Et quand vous m'avez demandé un petit peu comment j'ai travaillé, ben, entre autres, j'ai aussi utilisé la mémoire des autres, c'est-à-dire la mémoire de mon frère Pierre, la mémoire d'Antoine Gallimard, qui était à ce moment-là pas du tout destiné à être Antoine Gallimard et qui était un type formidable avec qui j'étais très liée, et la mémoire de Nathalie, qui est mon amie d'enfance et qui est toujours mon amie d'enfance, que j'embrasse si elle écoute.
Alors, vous parlez de vos amis. Alors, c'est d'ailleurs intéressant parce que vous étiez donc une toute jeune étudiante. Vous êtes entrée à Nanterre et la toute jeune étudiante que vous êtes se fait remarquer, non seulement parce que vous avez les cheveux roux, ça c'est Dany Comnène qui vous remarque, mais aussi parce que parfois, Jean-Luc Godard, vous tenez à cœur de vous accompagner, parce que c'était loin, Nanterre, et il vous emmenait dans son Alfa Romeo. Et ça passe pas inaperçu comme une Alfa Romeo. Et en plus, quand elle est conduite par Jean-Luc Godard, parce qu'il faut dire qu'à ce moment-là, déjà, Jean-Luc Godard était extrêmement célèbre. Et vous n'avez pas tellement montré cet aspect-là des choses, même si, de temps en temps, dans le livre, on voit poindre la façon dont on vous regarde, les changements de perception du regard. Il y a vos vrais amis qui ne changent pas de regard. Mais en revanche, on découvre une facette plutôt privée du Jean-Luc Godard, c'est-à-dire un homme fort amoureux, passionné, et qui le rend parfois possessif, parfois jaloux. Alors il se trouve qu'aujourd'hui, Jean-Luc Godard n'est plus seulement un homme célèbre, mais une icône du cinéma français et plus largement de la culture française. Est-ce qu'Anne Wiazemski, vous avez voulu, peut-être rien de tout ça, mais le rendre humain en le montrant comme ça, au contraire désacraliser le mythe, ou bien montrer d'une certaine façon l'homme que vous avez connu ?
Eh bien, c'est tout simplement de montrer l'homme que j'ai connu. Parce qu'à partir du moment où nous nous sommes aimés, connus puis aimés, il a immédiatement cessé d'être Jean-Luc Godard, mais Jean-Luc. Donc, c'était pour moi, en écrivant ce livre, en fait, ça a été assez facile, une fois que j'ai un petit peu délimité mon chemin, c'était d'oublier Jean-Luc Godard, justement. Y compris le Jean-Luc Godard de l'époque. Effectivement, de temps en temps, des personnes me le rappelaient. Mais sinon, c'était un peu schizophrénique, parce qu'il y avait cette personne publique et puis l'homme que j'aimais, qui étaient deux personnes différentes. Et c'est de façon cauchemardesque, quand on s'est marié, en plus on s'est marié en cachette pour avoir la paix, on a eu toute la presse sur le dos et tout ça, que j'ai réalisé le cauchemar que c'était que d'être avec quelqu'un très connu. Sinon, c'était... Mais mon frère, mes amis aussi, c'était Jean-Luc. C'était pas... La plupart n'avaient pas vu ses films.
Sauf peut-être
bah, Antoine Gallimard, peut-être, qui était le seul cultivé de cette bande.
Mais pas seulement, peut-être aussi des gens de votre famille, en particulier votre mère. Alors c'était peut-être moins le Jean-Luc Godard qu'elle n'aimait pas que le fait que c'était quelqu'un qui avait quelques 17 ans de plus que sa fille, ou qu'il était un Suisse, ou qu'il était d'un niveau ou d'une classe sociale différente. Votre mère n'a jamais accepté cette relation, contrairement à votre grand-père, qui était quand même François Mauriac, et qui finalement, lui, alors qu'il recevait toutes sortes de lettres d'injures, s'est montré plus compréhensif. Il a même dit, c'est ce que vous, en tous les cas, vous rapportez, je ne sais pas si c'est de la réalité ou de la fiction à ce moment-là, mais devenir le grand-père de Jean-Luc Godard, quelle consécration.
Oui, ça c'est vrai, parce que je l'ai écrit dans mon journal, que donc j'ai relu, et c'est dans le journal. Il y a beaucoup de choses d'ailleurs que j'avais oubliées, que j'ai remis dans le livre, parce que, c'est, par exemple, La Chinoise devait se tourner en noir et blanc, ça j'avais complètement oublié. Je m'excuse auprès d'Alain Bergala, historien de Godard, à qui j'ai jamais dit ça.
Oui, parce que c'est aussi le récit d'un tournage, celui de La Chinoise, dans lequel vous incarnez Véronique.
Vous savez, avant, j'ai travaillé vers Passy, puis vers Auteuil. C'était dans des appartements bourgeois, des très grands appartements, puis qui sont au premier en général. Ils sont très, très sombres. Alors, il fallait que je balaye dans le sombre. Je sortais du métro qui était déjà sombre. Je retournais là-dedans. Et puis... C'était toujours noir, quoi. Et le soir, après, il fallait que je retourne encore dans le métro, qui était sombre. Tandis qu'ici, ils discutent et ils parlent. Enfin, pour moi, c'est très clair.
Alors là, ça n'était pas Véronique. C'était l'autre, dont j'ai oublié le prénom, mais qui était incarnée par Juliette Berthaud dans La Chinoise.
Oui, elle s'appelle Yvonne. Et voilà. Donc, vous vous êtes apparemment trompée. Mais je suis très contente qu'on ait pu entendre la voix de Juliette Berthaud.
Oui, je voulais entendre Juliette Berthaud dans un autre extrait. Mais oui,
c'est justement une des raisons pourquoi j'ai eu envie d'écrire ce livre. C'était aussi ça. C'est retrouver ces personnes que j'ai tant aimées, parce qu'elles sont sorties de ma vie ou qu'elles sont tout simplement mortes, comme Juliette. C'était les retrouver dans l'énergie de leur jeunesse.
C'est d'ailleurs peut-être le seul moment, quand vous évoquez le tournage de La Chinoise, où effectivement, vous vous montrez un peu nostalgique. C'est le seul moment de véritable nostalgie qui est à la fin du tournage, et qui est page 190 dans votre roman, Anne Wiazemski. Et vous leur dites adieu d'une certaine façon. Et on sent que vous quittez un moment qui était un moment d'amitié, de gaieté, de solidarité. Mon livre est tombé.
Oui.
Mais ça ne vous empêche pas de parler, pardon.
Non. J'ai horreur de la nostalgie, donc c'est vraiment quelque chose que je m'étais interdite de mettre dans le livre. C'est Anne, 18 ans, qui écrit dans son journal « Adieu Juliette, adieu Jean-Pierre, adieu... » C'est elle. C'est cette fille-là qui est nostalgique, c'est pas moi.
C'est la fille de 19 ans, enfin de 20 ans oui. en l'occurrence, oui. puisque c'est à la fin de
non,
cette
là,
année.
Non, là j'ai encore 19 ans.
Et là vous avez encore 19 ans. Alors vous écrivez aussi Anne Wiazemski, et là je vais vous citer, c'est un petit peu plus loin. Je n'aurais pas su l'exprimer à l'époque, vous venez de rencontrer donc Truffaut, Cournot, Rivette et maintenant Bernardo Bertolucci. Je n'aurais pas su l'exprimer à l'époque, mais dans mon amour pour Jean-Luc, il y avait l'amour de son métier, de ses films et de ses amis. J'étais autant amoureuse de lui que de son univers. Alors là peut-être que c'est quand même la Anne Wiazemski d'aujourd'hui qui écrit ça. Cet amour n'avait-il pas commencé quand j'avais vu Pierre Aulfou et Masculin Féminin? Lui, intuitivement, devait le comprendre et savait ce qu'il gagnait en m'entraînant à sa
oui,
suite.
Oui, vous avez absolument raison de me taper sur les doigts là. C'est un
oh,
moment.
C'était pas ma volonté.
Non, je sais. Mais c'est un des rares moments où effectivement il y a un jugement qui se rapproche de celui d'aujourd'hui.
Oui, j'ai fait de la prostitution. Presque un an. Vers le métro Stalingrad, parce que j'habitais par là. Et puis après, sur les Champs-Élysées. Parce que je m'étais acheté une voiture, avec mon argent, une Fiat 850 décapotable.
Alors voilà le deuxième extrait où on entend encore donc Juliette Bertrand. Pourquoi cet extrait? Parce que c'est un extrait que vous reprenez dans votre livre Anne Wiazemski, tout simplement parce que vous nous apprenez que cette Fiat 850 dont on entend parler dans cet extrait, vous avez été offerte à vous par Jean-Luc Godard et que d'ailleurs elle avait provoqué ce cadeau, la fureur de votre mère.
Ben oui, parce que c'était. Je ne voulais pas que Jean-Luc m'accompagne à Nanterre parce qu'il était trop voyant. Donc j'y allais en métro, ensuite Saint-Lazare, une espèce de train pour Nanterre-la-Folie. Il faisait très froid cet hiver, il pleuvait beaucoup. Jean-Luc avait peur que je prenne froid. Donc il ne trouve rien de mieux que de m'offrir une voiture, une Fiat 250 décapotable. Comme je ne savais pas conduire, il dit à ma mère il lui tend les clés, puis il lui dit Vous allez la conduire avant qu'elle n'a pas son permis. Donc évidemment, ma pauvre maman, je lui en ai fait voir. Et réciproquement d'ailleurs, non, à cette époque.
Juste une question d'écriture, Anne Wiazemski. C'est un livre qui est également parsemé de musique. La première fois que Jean-Luc Godard vous appelle, c'est une valse de Strauss qu'on entend. Puis lors de votre première rencontre, il vous offre Nadja de Breton et des quatuors de Mozart. Après la projection d'Une femme est une femme, il vous offre le coffret de 32 sonates de Beethoven par Arthur Schnabel. Et puis aussi les nocturnes de Chopin, le concerto pour clarinette de Mozart, des sonates de Schubert. Il y a aussi quelques chansons, mais essentiellement des musiques classiques qui parcourent, qui jalonnent votre écriture et votre livre. Est-ce que c'était au fil des souvenirs? Est-ce que c'est une façon pour vous d'accompagner en musique le récit de cette année? Parce que vous ne vous êtes pas rendu compte que la musique était aussi présente dans votre livre?
Non, je ne m'en suis pas rendu compte, mais c'est vrai que... C'était quelqu'un qui faisait des cadeaux, aussi bien des livres, des films, de la musique. Et il y a Jeanne Moreau aussi.
Et il y a Jeanne Moreau
qui chante.
Et il y a Jeanne Moreau qui chante. Et puis il y a aussi, on l'entendra à la fin, Je garde le suspense.
D'accord.